Une femme est assise seule à une table devant un mur noir. Elle tient à la main un livre et est filmée en noir et blanc par Qubit dans des vidéos qui font entre 4 minutes et 8 secondes, 4 minutes 8 secondes et 11 minutes 42 secondes. Il y en a 10 au total, appelées sessions. Le premier datant du 13 septembre 2013 et le dernier du 24 janvier 2015. Toutes les vidéos se retrouvent sur YouTube, mais peuvent aussi être achetées sur le site web. Qubit recense aussi plusieurs articles, essais et explications discutant du projet. Fait intéressant, sur YouTube, la section commentaires a été délibérément barrée par Qubit, celui-ci disant que le sexe rend les gens stupides. Chaque vidéo fonctionne de la même façon, la femme se présente, soit seulement par son prénom, soit par son prénom et son nom. Le prénom donne son titre à la session. Elle indique le titre et l'auteur du livre qu'elle tient à la main. Elle commence à lire à voix haute, puis, plus ou moins rapidement, son rythme de lecture s'accélère. Sous la table, un vibromasseur est en effet à l'œuvre, soit un Hitachi Magic Wand. Est-ce qu'on a une image de ça?
Oui, on a une image de ça.
Ah, c'est ça. C'est juste quelqu'un sur Internet disait que ça ressemblait à R2-D2. Donc, il arrive qu'on entende le bruit du moteur, plus ou moins fortement, mais sans jamais voir qui le guide. La femme jouit, ou du moins le donne à croire. Dans presque tous les cas, une voix d'homme, qu'on suppose celle du réalisateur, s'assure que tout va bien et la remercie. Parfois, on a accès à quelques réactions post-orgasmiques. C'est fini. Rapidement, les sessions ou séances captivent l'imaginaire et deviennent virales. Plusieurs blogs tenteront d'expliquer la démarche de Qubit et plusieurs copycats produiront d'autres vidéos embrassant le même genre de mise en scène, voire le même type de performance allant de l'hommage à la parodie. Et je me suis trompé dans mes papiers. Le fait est que les séances d'Historical Literature apparaissent comme des objets complexes qui font réagir.
Donc en fait, Clayton Qubit, l'artiste derrière le projet, il aime bien se décrire comme trop porno pour le monde de l'art, trop artistique pour le monde de la porno et trop art porn pour le monde commercial. Donc concrètement, en photographie, ça va donner, des photos un peu comme celle-ci. Donc on remarque d'emblée l'esthétique particulièrement léchée, qui rappelle en fait presque les photographies des grands magazines de mode. En fait, il faut comprendre que Qubit, il travaille dans le domaine de la mode et de la publicité et qui se dit incapable, en fait, de faire une distinction claire entre son travail commercial et son travail artistique. En fait, au contraire, son désir principal, c'est de mettre en lumière les liens inextricables qui, selon lui, unissent l'art, le sexe, l'économie et la politique. En fait, par rapport à son esthétique habituelle, on remarque d'emblée qu'Hysterical Literature, ça détonne un peu. Comme David l'a dit, chacun des vidéos n'est en fait formé que d'un plan séquence à cadrage mi-moyen, filmé en noir et blanc. En fait, le genre de truc qu'on aurait presque pu réaliser à l'aide d'une webcam, ce qui explique un peu aussi pourquoi il y a eu tant de copies et de parodies, j'imagine, parce que c'était facile de se le réapproprier. Qubit va expliquer avoir choisi cette forme-là en disant que cette fois, il a cherché à s'éloigner de l'esthétique spectaculaire généralement associée à la pornographie hardcore. Il voulait que le tout soit le plus, puis là je traduis, mais je garde vraiment ces mots. Il va dire « austère et clinique possible ». Il va carrément utiliser le terme, en fait, « unsexy ». Pourquoi, en fait, il a décidé de faire ça cette fois-ci? Dans la foire aux questions sur le site web du projet, parce que, oui, sur le site web, il y a de l'œuvre, il y a une foire aux questions où est-ce que Qubit explique qu'est-ce qu'il a essayé de faire derrière avec ça. Mais là, il va dire que « Historical Literature », en fait, ça découle d'un autre de ses projets, qui est une série de vidéos nommée « Long Portraits ». Donc, ici, j'ai quelques captures d'écran. Ces derniers, en fait, ces vidéos-là, ça montre des sujets qui fixent la caméra pendant environ 5 à 10 minutes. Le but, c'est explicitement de répondre au fait qu'à l'ère des selfies puis des médias sociaux, en fait, tout le monde sait prendre la pause pour présenter et préparer son portrait, on pourrait dire. Donc, dans les portraits longs, Qubit, il filme les sujets pendant un laps de temps relativement long, donc comme je l'ai dit, 5 à 10 minutes, dans le but de faire tomber cette pause-là, dans le but d'obliger les sujets, en fait, à se présenter sous un autre angle qui constituerait, selon lui, un portrait plus authentique. Sauf que, bon, on le remarque par les captures d'écran ici, les portraits longs sont relativement différents de Historical Literature. On pourrait dire qu'on reconnaît mieux un peu le style typique de Qubit, l'image un peu plus travaillée. Puis aussi, il y a des hommes qui participent au projet. Puis, les sujets ne sont pas stimulés par une source externe. Ils sont simplement, bon, filmés longtemps. Puis c'est ça qui fait, en fait, que la pause tombe ou non, éventuellement. Donc, Hysterical Literature, ça va ajouter différentes dimensions à l'idée de base des portraits longs. Qubit, il va dire que le but ici, c'est de rendre le portrait moins anonyme, plus propre au sujet filmé. C'est pourquoi lui-même va tenter de se retirer le plus possible du processus. Donc, il va dire, en laissant les femmes choisir comment elles s'habillent et le livre qu'elles lisent, et puis en leur demandant de choisir un livre, en fait, qui est très important pour elles. puis aussi en ne parlant pas lui-même dans les vidéos, en fait presque pas, parce qu'à la fin, des fois, on l'entend parler aux femmes, en fait, il leur demande si tout va bien, le plus souvent, là. Puis aussi en dressant l'esthétique particulièrement simpliste. Donc, selon l'artiste, à ce moment, la lecture filmée devient une sorte de conversation que les femmes entretiennent avec elles-mêmes. Sauf que là, c'est là où l'aspect sexuel de la chose entre en jeu. C'est que ce qui est authentique dans la représentation, selon Cubitt, c'est pas la lecture que les femmes font du livre, c'est ce qui se passe en dessous de la table. En fait, la petite mort qu'est l'orgasme, éventuellement. Parce qu'en fait, pour Cubitt, le livre, c'est un proxy de la persona que la distraction causée par le vibrateur va peu à peu faire tomber. Puis ça, bon, d'un point de vue littéraire, c'est d'emblée une position assez curieuse. Mais bon, David va y revenir plus tard, je ne m'attarde pas là-dessus pour l'instant. Simplement retenir le fait, en fait, que l'idée de base, puis là, je paraphrase encore le site Internet, c'est d'opposer l'esprit au corps pour faire tomber la pose et dresser un portrait plus vrai, donc, on le devine, en retournant vers le corps. D'où aussi le désir de s'éloigner le plus possible de l'esthétique typique de la porno hardcore, en fait, pour éviter l'objectivation de la représentation sexuelle et présenter quelque chose d'authentique. En fait, la façon dont Cubitt cache le geste pour montrer la sexualité sous un autre angle, ça rappelle beaucoup le film Blowjob d'Andy Warhol. Donc ici, j'ai quelques captures d'écran. Il y a quelques critiques qui ont noté la ressemblance entre les deux œuvres. Cubitt, lui, souvent, il va comparer ses portraits longs au screen test de Warhol, mais il ne va jamais concrètement parler de blowjob. On ne peut pas affirmer donc qu'il y a une référence intertextuelle voulue, sauf que malgré ça, puis malgré le fait que les deux œuvres ont été créées dans des contextes culturels très, très différents, je pense que les comparer brièvement, c'est assez éclairant sur un aspect important de l'œuvre de Cubitt, en fait. Donc, blowjob, concrètement, c'est un film muet qui dure environ 35 minutes. Simplement, c'est un gros plan qui montre le visage d'un homme qui reçoit une fellation. Dans son analyse du film, Ara Osterweil, elle va avancer l'idée que blowjob cache pour mieux montrer. Elle va dire en fait que de cette manière-là, ce film, si on le regarde dans le contexte actuel, ça restaure l'aura du plaisir sexuel qui est perdu dans la pornographie hardcore. Il faut entendre ici, bien sûr, le mot aura selon la définition benjaminienne du terme, donc l'unique apparition d'un lointain si proche soit-il. Donc, selon elle, Blowjob arrive à ce résultat-là en suspendant le principe de la visibilité maximale à deux niveaux. Donc, rapidement, ce concept-là, je suis pas mal sûr que pas mal tout le monde est familier avec ça ici, mais je vais le définir quand même au cas où. Donc, le principe de la visibilité maximale, c'est la manière dont opère la pornographie hardcore pour donner des preuves que le corps et les corps sont en ébat et qu'ils éprouvent du plaisir. Donc, par exemple, des close-ups des parties génitales qui sont en train de se... les pénétrations, des visages bon, qui réagissent à ces pénétrations et le money shot, éventuellement, qui est le point, comme le climax, en fait, du tout. Donc, comment est-ce que Warhol suspend ce principe-là? Donc, premièrement, comme on le sait, en ne montrant jamais la pénétration promise par le titre, mais deuxièmement, et c'est là que ça devient, en fait, très intéressant, c'est que c'est en rendant l'objet qui remplace cette pénétration-là, particulièrement difficile à lire, à saisir. Parce que les expressions du visage filmé tout au long du film sont assez équivoques. Donc, non seulement les signes de jouissance vont être constamment entrecoupés par des signes d'ennui, mais aussi l'éclairage va être pensé en fonction de à ce que le spectateur n'arrive pas à établir de contact visuel avec le visage filmé. Donc, de cette manière-là, on va créer plusieurs ondes d'ombre, ce qui va rendre par moments les expressions de l'homme carrément illisibles. On ne pourra pas dire, en fait, qu'est-ce qu'il est en train de ressentir du tout. Et encore plus, l'orgasme, lorsqu'il survient, on ne le voit pratiquement pas. Le spectateur, en fait, il va deviner qu'il y a eu un coït, tout simplement parce que le personnage va se mettre à fumer une cigarette à la fin du film. Donc, selon Osterweil, c'est en transformant ici la représentation de l'acte sexuel en un portrait ombragé et évanescent que Warhol saisit l'aura de la représentation sexuelle. Par le fait même, selon elle, Blowjob fait travailler les spectateurs. On pourrait dire en fait que Blowjob déploie la représentation de l'acte sexuel d'une manière qui ébranle les habitudes du voyeur. Et puis c'est en ce sens-là que je trouve que la comparaison avec Cubitt est vraiment porteuse, dans la mesure où Cubitt, lui, va cacher l'acte sexuel, mais on ne peut pas vraiment dire qu'il va suspendre le principe de la visibilité maximale autant au niveau de ce qui remplace cette pénétration-là. Parce que contrairement à Blowjob, en fait, les sessions d'Hysterical Literature, ils restent formés par une narration linéaire qui termine par un orgasme clair. Fait que, dans une certaine mesure, on pourrait dire que le principe, la visibilité maximale qui veut que le vidéo culmine par l'orgasme, ici, il est respecté. Bon, bien sûr, selon ce principe-là, si on parle surtout de l'orgasme masculin, le come-shot qui est extérieur, mais tout de même, on peut se demander si la question se pose par rapport à ça, dans quelle mesure est-ce que le voyeur est dérangé ici, et par le fait même, dans quelle mesure l'objectivation du plaisir sexuel est-elle évitée, si elle est, parce qu'on se pose ces questions-là, en fait, parce que c'est le but, c'est ce que Qubit prétend faire. Il cherche à, en fait, présenter quelque chose d'authentique, non pas comme authentique comme dans un vrai rapport sexuel, mais plutôt comme un rapport sexuel non artificialisé. Donc, la nuance est quand même importante. Pour commencer à répondre à cette question-là, il semble d'abord important, en fait, de s'attarder plus longuement au mécanisme du dispositif mis en place par l'artiste, ce que David va faire dans la prochaine portion de l'analyse. Mais avant ça, on voudrait vous présenter la première version du projet.
En fait, c'est très simple. Ça ressemble vraiment beaucoup au historical literature, si bien que, en fait, à la place, c'est complètement rouge. Là, je veux juste lire.
C'est que là, à ce moment-là, la participante, elle va être nue. Puis, Clayton Qubit va lui poser des questions, en fait. On va l'entendre clairement. Il va y avoir une discussion entre les deux. Tu le dis déjà? OK.
La caméra est aussi fixe. La femme parle à voix haute. La machine s'active aussi en dessous de la table. Et l'orgasme conclut la séance comme dans les originaux. Or, il y a vraiment une toute autre esthétique et un tout autre propos qui s'en dégage. L'actrice qui joue est Justine Jolie, qui est une actrice de films porno. Et est nue, en fait, devant l'objectif. L'éclairage est rouge, qui rappelle beaucoup les formes d'érotisme associées au red light. L'interrogation est insistante. Il lui demande « What did you do after school? » Là, elle essaie de répondre. Là, il répond et il répète à plusieurs reprises. C'est très agressif, voire même violent. Ça semble bien assumé comme tel, à la fois performance, une curiosité et d'un désir. On est bien loin des dires de Qubit voulant s'éloigner de la pornographie ou de l'objectivation de la femme. Sur le site du projet, Qubit parle de l'hystérie, dans Historical Literature, comme d'un diagnostic issu de l'ère victorienne ayant servi à soigner un vaste et éclectique champ de maladies féminines. Il y nomme comme exemple de pratiques soignantes l'isolation, l'hydrothérapie et l'utilisation de vibromasseurs. Il explique qu'il voulait, avec ce terme, explorer la confusion et la honte associées depuis longtemps au plaisir féminin, tout en soulignant finalement que le mot « hysterical » peut vouloir dire « funny » et que les vidéos sont « funny » à regarder. D'abord, il me semble intéressant de remarquer qu'ici aussi, l'usage de vibromasseurs semble se faire dans une logique clinique, voire curative. Certaines participantes écrivent leurs expériences libératrices, Qubit dit problématiser la dichotomie « mind-body », les deux côtés de la table s'interrogent sur une image qui doit être surpassée, etc. Dans l'invention de l'hystérie, Charcot et l'iconographie de la Feutrière, écrit par Georges Didier-Berman, celui-ci s'adonne à une analyse assez poussée du phénomène médical de l'hystérie. Le docteur Charcot, qui se considérait à plusieurs égards comme un artiste, aura cherché à moderniser la cure de l'hystérie, lui redonnant son nom et une panoplie de symptômes pour, finalement, lui-même la désavouer en tant que maladie à part entière. Pour le bien du temps qui passe, je ne m'attarderai qu'à deux points qui me semblent aussi parler du dispositif qui est développé dans la pratique de Qubit. Ici, on peut voir des sympathiques hystériques. Donc pour Charcot, la photographie apparaîtra comme le moyen tout trouvé pour capter le mouvement de l'âme malade des hystériques et leur physionomie particulière. Autour de cette idée s'articulera toute une mécanique de saisie de l'aura hystérique et de son temps particulier, de sa réalité dévoilée par la vraie rétine du savant, qui est l'appareil photo. Cette posture suggère donc que celui qui veut soigner doit convoquer un dispositif pour ce faire, qu'il soit question de Charcot et de ses médecins, ou de Qubit, qui lui utilise la caméra YouTube. Ce dispositif technique se doublera d'un dispositif de mise en scène, suggérant une certaine vision de ce qu'est l'hystérie. Celle-ci se décèle en fait selon une liste de symptômes parfois visibles, parfois non, qui peuvent repopper plusieurs mois plus tard, la rendant difficile à suivre. De facto, l'hystérie sera réfléchie comme une maladie intérieure, ne pouvant être observée que par le biais d'une mise en scène à laquelle les hystériques se prêteront. Ce contrat tacite de mise en spectacle prendra la forme de leçons d'amphithéâtre où la patiente sous hypnose sera manipulée selon les besoins de la leçon, selon ce que le dispositif prévoit, permet, met en scène. Et là, l'autre prochain. T'as pas là?
Oui, j'ai changé.
Ok, bon. Pour qu'apparaisse ce qu'on peut y voir, forcément hystérique. Il faisait des réunions et plusieurs hommes étaient présents. Le dispositif chez Qubit fera aussi usage d'une mise en scène et d'un contrat, non pas tacite, mais avéré, laissant place lui aussi au caractère irrémédiable du pacte sur lequel on ne peut revenir et qui montre ce qu'on veut voir montrer. Par exemple, dans la session 8, la participante Maria Cho pousse certains qui suggérant qu'elle est dépassée ou qu'elle voudrait que ça cesse. Ce qu'elle confirme dans un podcast de l'émission Monsters of Talk qu'elle anime, disant avoir pensé à quelques reprises arrêtées pendant l'expérience, sans cependant préciser pourquoi elle ne l'a pas fait. Un peu plus loin dans l'émission, Qubit, lui aussi présent, expliquera qu'il laisse les participantes choisir comment elles s'habillent et quels livres elles veulent lire, qu'elles sont libres d'affirmer les éléments qu'elles veulent, mais que l'expérience lui appartient. Il tient en place le dispositif et à partir du moment où le contrat de participation est accepté, elles doivent jouer dans la mise en scène et possiblement s'en sentir grandies, comme ce fut le cas pour Margaret Cho d'ailleurs, comme c'était précisément ce à quoi l'expérience était supposée mener, irrémédiablement, selon les rôles attribués. Le deuxième point, Didier analyse l'aventure de la salpêtrière comme un lent glissement du « voir pour savoir » vers le « voir pour voir ». En fait, l'approche expérimentale de la douleur et le mandat thérapeutique des médecins, s'y accolant, auraient été subjugués par leur curiosité qui était insatiable pour les secrets nourrissant le mal hystérique que la mise en scène permettait de dévoiler. Ce qui fait qu'à plusieurs reprises, il y avait plusieurs remises en scène de même chose qui en bout de ligne ne servait pas à donner plus de précision. En attente, comme s'ils attendaient en fait une forme de dénouement qui viendrait justifier tous les corps s'étant prêtés à l'exercice de leur fétichisation, les médecins auront tenté de livrer la vérité de l'hystérique et en fait de la femme. Qubit, lui, tiendra un discours similaire, se proposant de ramener les femmes à un réel qu'elles auraient perdu au profit d'un sourire plastique, faux. Paradoxalement, il choisira ses modèles selon certains critères esthétiques, voulant des participantes « sweet and smart » et au physique intéressant. Par le biais de cette mise en scène, Qubit aura voulu voir l'esprit de ces femmes combattre le dispositif à orgasme alors déployé contre leur corps. Mais il sera alors tombé dans un même processus de fétichisation binaire de ce même corps, évacuant à de nombreux égards la possibilité d'un dialogue. Ce rapport dichotomique, on le retrouvera d'ailleurs chez les spectateurs. De nombreux commentaires véhiculeront autour des œuvres de faux débat. On interrogera par exemple l'authenticité des orgasmes filmés. La tentative de remise en question de Qubit manquera parfois remarquablement la cible. Plusieurs échanges sur Reddit discutent de la meilleure session sur laquelle se masturber, par exemple. Didier Berman conclura son analyse en constatant la tragédie qu'aura été l'aventure de Charcot et sa déception, qui en bout de ligne aura déchiré plusieurs vies. Bien entendu, le dispositif qui est au cœur de la mise en scène de Qubit n'est pas aussi tragique que celui de Charcot. Les femmes de Hysterical Literature sont clairement consentantes et semblent pour la plupart être satisfaites de leur participation. Cependant, le dispositif de traitement de ces participantes ne manque pas de tomber dans certains des pièges qu'on retrouve dans les mises en scène de la salpêtrière. En ce sens, la première mouture du projet, que vous n'avez pas vue, avec Justine Jolie, rend bien la violence du désir de savoir et du désir de voir qui motive ce dispositif et qui en oriente les débouchés potentiels. C'est enfin un peu par hasard qu'on est tombé sur de telles similarités alors qu'on cherchait plus de l'information sur l'hystérie juste pour avoir l'histoire de la maladie. Initialement, nous avions le projet de parler plus en profondeur de la littérature, mais rapidement, il nous a apparu clair qu'on était bien loin du plaisir du texte dont parle Barthes. La littérature ici n'est approchée que comme une prolongation de soi et non pas comme un élément à part entière. Elle se soustrait à sa représentation et en bout de ligne, le spectateur donne très peu... la plupart du temps, on ne fait juste pas vraiment se souvenir qu'est-ce qui a été lu ou... Qu'était quoi le nom de l'auteur, sauf à certains niveaux. Là, le premier, entre autres, avec Stoya, parce qu'elle avait écrit un blog où est-ce qu'elle parlait de ce livre-là. Encore là, on parlait tantôt du capital un peu social, du fait qu'elle était populaire, donc en bout de ligne, l'écrivain lui aussi était populaire. Donc, le dispositif, en fait, en bout de ligne, a encore pris toute la place. Puis, en fait, le spectateur cherche plus la jouissance qui est en train de poindre sous la lecture. Puis, c'est très fun.
Bon, en tout cas, pour l'instant, on va conclure ainsi. En fait, parce qu'au début aussi, on avait comme un but d'analyser le projet de Qubit en tant qu'œuvre post-pornographique, d'où le trait de la communication dans le programme. Parce que, bon, un peu, quand on regardait ça de prime abord, on se disait que cette esthétique-là apparaissait, en fait, comme post-porno, dans la mesure où elle se positionne par rapport à l'esthétique porno hardcore, va tenter en fait de s'opposer à certains éléments, de s'en réapproprier d'autres pour élaborer un certain propos critique en fait. Sauf qu'en s'attardant plus longuement aux vidéos puis au métatexte qui lui est lié, on s'est rapidement buté à un fait en fait qui est assez, qui nous semble assez important, c'est que en fait l'artiste qui prétend par cette œuvre-là faire tomber une persona trompeuse en fait pour montrer une image qui serait personnelle et vraie, ben Il se déploie d'une manière qui oblitère en fait un nœud qui est fondamental selon nous par rapport à cette problématique-là, qui est celle en fait de la relation entre le voyeur et celui qui est vu, pour reprendre les termes de David, un peu entre le désirant et le désiré. En fait, on peut se questionner à partir de là, à savoir si on atteint vraiment une portée critique, comme l'entend par exemple Beatrice Preciado lorsqu'elle définit la notion de post-porno ainsi. Je vous l'ai écrit, au cas où mon anglais boiterait. The notion of post-pornography suggests an epistemological and political break and another way of knowing and producing pleasure through looking. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, question de temps, mais qui est une question en fait fondamentale, c'est que Qubit va d'emblée dire que son projet, c'est un projet féministe. Puis il faudrait éventuellement, bien sûr, s'attarder sur cet aspect de la chose plus en profondeur, mais avant de le faire, il semblait vraiment nécessaire de s'attarder à la dimension, on pourrait dire, finalement, presque essentialiste de la mise en scène de Qubit, qui cherche à faire apparaître une image vraie en déjouant l'esprit grâce au corps et qui, bon, on pourrait dire, comme David l'a démontré un peu, opère un peu à l'instar de Charcot qui, par son dispositif, cherchait à faire apparaître l'essence du mal de ses patientes, en fait. Ouais.
C'est ça.
Comme ça.